Au boulot, c'est le mot d'ordre d'Anne Hidalgo, à peine investie par le PS. Au détriment de Stéphane Le Foll, battu à plate couture, 72 contre 28. Mais voilà, à peine investie, c'est l'effet candidat. Elle est créditée de 4% d'intention de vote, c'est-à-dire autant qu'Arnaud Montebourg et moitié moins que Yannick Jadot. Grand raout prévu samedi prochain à Lille chez Martine Aubry, avec Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve. Ça fait rêver qui, ça encore ?
Michel Cotard. Rêver. En tout cas, ça ne fait pas tellement rêver Anne Hidalgo, ni le parti socialiste. Donc, effectivement, elle a été nommée après un vote des militants, mais un vote très réduit, parce qu'en ce moment, les socialistes ne sont pas au mieux de leur forme.
Vous voulez dire qu'ils n'étaient pas nombreux ?
Ils n'étaient pas nombreux, effectivement. Et donc, c'est pour
combien
ça, quand on dit Stéphane, autour de 20 000, un peu moins.
Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre.
Un peu moins. Oui, oui. Bon, alors, évidemment, à peine, elle a
qui
commencé
ça,
quand même sa campagne. Elle avait commencé sa campagne en lançant quelques thèmes du genre le doublement des salaires des professeurs ou les autoroutes à 110 km à l'heure, etc. Bon, et tout ça a paru comme des propositions qui n'ont pas tellement retenu l'attention. Et au fond, autour d'elle, on dit elle s'est présentée ou trop tôt ou trop tard. Elle s'est présentée, il fallait qu'elle se présente peut-être en juillet, là, elle occupait le terrain, un peu comme Bertrand, ou il fallait qu'elle se présente plus tard, en novembre, mais maintenant, elle présente sa candidature au moment où c'est le régalien, au fond, qui est discuté, où c'est la sécurité, on le voit bien, l'immigration. Donc elle apparaît comme décalée, et elle est en effet décalée avec 4%.
Gérard Carreau.
Oui, écoutez, elle a quand même du mérite, parce qu'elle est en course pour le prix Gaston Defer. Vous savez, Gaston Defer,
oui,
le candidat avec Mendès France, du Parti Socialiste en 1969. Et il avait fait,
5%.
Michel, il a fait
5,
les 5 ou 4,5
oui, 5.
Donc elle peut battre, le record de Gaston Defer. Donc vous voyez bien que c'est pas négligeable quand même.
Oui.
Non, alors pour être plus sérieux, non, parce que je vois que ça vous fait pas rire, Michel.
Au contraire,
Michel.
Disait Coluche, à l'intérieur il y a une surbaume.
Voilà, pour être plus sérieux, je me contenterai. Il y a eu un article admirable de quelqu'un pour qui j'ai effectivement beaucoup d'admiration, qui s'appelle Jacques Julliard, qui vient de la gauche, de cette gauche rocardienne que j'ai fréquentée moi-même.
Dont tu viens toi-même.
Oui, et qui a fait un papier. Il écrit maintenant éditorialiste au Figaro, comme quoi il a eu une évolution intéressante.
Oui,
comme,
oui,
la mienne.
Comme toi, il a fait du chemin. Oui.
Et alors, absolument. Mais il dit effectivement ceci. Il dit, je retire juste une phrase, alors là, pour vous faire peut-être sourire. Il dit: la gauche a abandonné son identité. Pour complaire à l'islam, la gauche éternelle, la gauche bouffeuse de curés, est devenue la gauche lécheuse de burqa. Mmh. Bon, ça c'est une phrase sortie de son contexte. Il y a tout un développement sur la gauche. Il démontre que la gauche, elle a fait tout mal, si j'ose dire, dans les dernières... Et qu'aujourd'hui, elle est prisonnière...
Il est temps qu'ils s'en aperçoivent.
Elle est prisonnière, le camp du bien dont elle se réclame, est prisonnier du lobby des quatre, le lobby de la bande des quatre, les minorités sexuelles LGBT, le féminisme racisé, l'islamo-gauchisme et les écolos doctrinaires. Quelque part, la gauche, elle ne se sort pas de cette prise en main par faux intellectualisme.
Catherine Ney.
Moi, je crois qu'elle ne se remet pas d'avoir un président, le président Hollande, qui n'a pas pu se représenter sous la concurrence.
Qui n'a pas pu ou qui n'a pas voulu ?
Qui n'a pas pu, qui n'a pas voulu, parce qu'il ne pouvait pas. Je veux dire, il a renoncé, parce qu'il y avait la pression à la fois de Manuel Valls, son premier ministre, et surtout du jeune, de son chouchou, celui dont il ne voulait pas voir la perversité et le jeu pervers qui l'a conduit il n'a jamais voulu. Enfin voilà. Et donc, il y a déjà un gros traumatisme pour les socialistes de ne pas avoir deux candidats. Mmh. Bon. Et puis,
Benoît Hamon.
6%. Je veux dire, tout d'un coup, on n'a plus regardé le PS. Ça n'existe plus. Et on ne peut pas dire qu'Olivier Faure, qui a quitté la rue Solferino, qui est exilé on ne sait où en banlieue et qu'on ne va pas voir, et qui n'a pas de parole, et qui est prêt à s'effacer devant Yannick Jadot.
Ah,
donc, il y a quelque chose qui s'est délité. Donc, Madame Hidalgo, elle a une ambition qui vient de loin. Il y a toute une histoire personnelle. Elle est déjà maire de Paris, élue, réélue, en ayant au premier tour autant de voix que la droite, mais grâce à son alliance avec les Verts, avec lesquels elle ne s'entend pas, vous voyez. C'est une équation très compliquée. elle en veut et à la fois, on ne sait pas ce qu'elle veut. On sait qu'elle veut y aller, mais pas sur quel programme. Vous voyez, au départ, elle a fait une alliance pour dire, là, c'est, je ne sais plus comment, sa France, ça s'appelait la France en commun. Donc, elle voulait un peu sortir du PS pour ratisser large, déjà comme pour le deuxième tour. Puis là, elle revient dardard dans sa maison, comme d'autres le font avec le LR, vous voyez. Mais on ne sait pas ce qu'elle veut. Et ce que je trouve très extraordinaire avec cette femme, et après j'arrête, c'est qu'on voit qu'elle a cette ambition, qu'elle le veut, et qu'elle a un parler mou. Moi, je trouve qu'elle a un parler gnangnan, elle est ennuyeuse. Et donc, je pense qu'elle va avoir beaucoup de mal, même si elle en a envie, à intéresser les gens.
Voilà. Anne, si vous entendez, voilà, Charles Villeneuve.
Ben, moi, j'observe, si vous voulez, depuis l'élection du général de Gaulle et la Ve République, que chaque élection présidentielle consacre une idée forte à travers ses candidats. À quelle idée forte vous voulez identifier Anne Hidalgo? Le Parti socialiste, qui a été un grand parti, n'a pas réussi à réinventer, à imaginer un discours qui soit à la fois conforme à leur identité et adapté aux attentes actuelles. Quand c'est, par exemple, Emmanuel Macron, c'est évidemment au-dessus des clivages droite-gauche, ça a été son idée forte. De la même manière, Sarkozy en 2007, c'était la rupture et en même temps l'identité, un peu en avance d'ailleurs. On voit qu'on y revient fortement à l'identité. Aujourd'hui, à quelle idée forte vous associez Anne Hidalgo?
Aux embouteillages et à la saleté de Paris.
Ah ben voilà, c'est ce qui revient à ce moment-là,
si vous voulez. Sur la saleté de Paris, il faudrait d'ailleurs, pour faire évacuer les rongeurs, que Hamelin revienne avec sa flûte et puisse les faire évacuer. Mais donc, on est loin des contes de Grimm.
Mais c'est les grands travaux, là.
Justement, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la montée en puissance d'une idée forte, qui s'appelle ce qui est la nouvelle utopie, l'écologie, et la deuxième idée forte, d'ailleurs, qui entrave, justement, le Parti socialiste et même la gauche, c'est que la mondialisation libérale et celle des échanges et la domination du capitalisme financier perturbent complètement les partis de gauche.
Alors, en plus, si on va plus loin, elle a, au fond, elle est à 5%. Elle a un mois pour s'en tirer. Elle a encore un mois, on lui laisse le meeting du 23 septembre prochain.
C'est-à-dire, on lui laisse sa chance, vous voulez dire?
Et puis déjà, oui, les socialistes lui laissent, la gauche lui laisse peut-être une chance qu'elle doit avoir. Mais après, si on l'a... J'entends déjà, moi, des gens dire quand est-ce qu'on va la débrancher. Elle n'a même pas commencé. Il y a des gens à l'intérieur du Parti socialiste qui disent on va déjà la débrancher.
Mais pour mettre
alors,
qui
dans
pour
ce cas-là, justement, dans ce cas-là, il y a deux hypothèses. Ou le Parti socialiste s'allie derrière Jadot. Mais la campagne de Jadot n'a pas de dynamique non plus. Elle est à 8, il est à 7, 8, mais ce n'est pas seulement...
C'est pas 8, ce n'est pas 4. Hein.
Oui, mais d'accord, mais elle n'a pas... On se disait que Jadot allait avoir une sorte de dynamique au moment où il serait nommé. En réalité, il est plombé par Delphine Batho et Sandrine Rousseau, qui lui interdisent, au fond, d'ouvrir son champ d'une manière plus gouvernementale. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Donc, si Jadot, c'est pas sûr que ce soit formidable de se rallier à lui. Et puis, je vous rappelle que reste toujours quand même Jean-Luc Mélenchon, qui a chuté formidablement dans les sondages, mais qui a un pouvoir de nuisance sur la gauche. Sur la gauche énorme.
Michel, l'alliance Jadot-Hidalgo, ce serait l'alliance de l'aveugle et du paralytique. Tu as raison. Oui. Les deux ramifications, les deux rameaux sont sans dynamique. Et quant à la troisième que tu as mentionnée à la fin, Mélenchon, il n'a pas non plus de dynamique.
Il a une dynamique inverse.
Il avait une dynamique extrêmement baissière et il s'est stabilisé autour de 8%.
On va marquer une pause et on revient tout de suite avec les grandes voix. On parle de la gauche, mais de la droite aussi. À tout de suite.